Et nous recevons aujourd'hui Hélène Soupio-David, directrice de plaidoyer à l'association France Terre d'Asile. Bonjour.
Bonjour.
L'objectif du ministre, il est très clair, régulariser moins, expulser plus. Que vous inspirent ces premières déclarations ?
Nous, ce qu'on trouve, c'est que on est dans un moment où on a vu que la France, les Français ont surtout besoin de cohésion et moins de division, et donc peut-être pas de parler de sujets très clivants en premier lieu. Il y a eu une loi il y a à peine un an qui a été votée et qui a créé des divisions énormes au sein de la société. On a une Assemblée nationale qui est très plurielle et qui reflète la pluralité aussi des positions des Français sur ces questions-là. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de loi. Les JO cet été nous ont fait tous vibrer autour d'une nation inclusive, plurielle, une nation qui s'est construite sur l'immigration aussi, autour de vraies valeurs positives. Et donc, les premières déclarations sont très marquées par du négatif, par de la peur. Alors, évidemment, tout le monde souhaite de l'ordre dans la société. Mais si on veut parler d'immigration, si on veut travailler là-dessus, nous, ce qu'on demande, c'est que on ne parle pas que en matière politique très large, mais qu'on s'appuie sur les connaissances des chercheurs et chercheuses. Ils sont des centaines à travailler sur ces sujets, des acteurs de terrain, pour parler sans tabou, mais en étant pragmatique et en sortant des généralisations pour apporter des réponses. Parce que on peut dire il faut expulser, sauf que ça, c'est une déclaration globale, mais après, il faut regarder chaque cas, il ne faut pas régulariser. Mais alors, si je prends la personne qui garde vos enfants le soir et qui tout à coup perd son titre de séjour parce que son conjoint est violent et que son titre de séjour était lié à son conjoint, est-ce que cette personne, il ne faut pas la régulariser? Si je prends la personne qui travaille dans la cuisine du restaurant où vous allez manger avec vos collègues et qui prépare les plats que vous adorez, et qui est là en situation irrégulière, est-ce que cette personne-là, il ne faut pas la régulariser alors qu'elle travaille, qu'elle paye des cotisations? C'est trop facile de généraliser sans dire, mais en fait, on regarde au cas par cas.
Vous avez évoqué la loi immigration qui avait été portée par le prédécesseur de Bruno Retailleau, Gérald Darmanin. Le nouveau ministre ne cache pas son intention de remettre en place un certain nombre de mesures qui figuraient dans cette loi, des mesures qui pourtant avaient été à l'époque, il y a quelques mois, retoquées par le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il pourrait en être autrement cette fois-ci ?
Alors, le Conseil constitutionnel, il avait effectivement retoqué des mesures, mais plus sur la forme. Donc, il peut y avoir une nouvelle proposition, un nouveau projet de loi, mais on vient à peine de terminer l'autre, l'encre est à peine sèche. Et donc, regardons déjà les effets des mesures qui ont été adoptées et de leur mise en œuvre. Elles ne sont pas toutes en œuvre maintenant, avant de se relancer dans un nouveau processus législatif de débat sur des sujets qui sont fondamentalement pas prioritaire, je pense, pour la majorité des Français.
Est-ce que vous en observez, vous, sur le terrain, des effets déjà de la loi qui a été votée il y a quelques mois? Vous voyez déjà des conséquences?
Mais en fait, c'est justement beaucoup trop tôt, puisque quand on vote une loi, il faut souvent prendre beaucoup de décrets pour préciser la loi. Et la majorité de ces décrets ont été publiés au mois de juillet. Il y a des choses qui ont été votées qui ne sont toujours pas mises en œuvre, notamment dans le secteur dont nous on s'occupe, sur l'asile. Donc on commence à peine à le voir et c'est même trop tôt pour tirer un bilan. Donc c'est pour ça qu'on dit attendons un peu avant de nous relancer dans un nouvel exercice, alors qu'on ne sait même pas l'impact de ce qui a été voté au mois de janvier.
L'objectif en tout cas du nouveau ministre est très clair, lui veut revenir à la charge sur ce sujet-là. Bruno Retailleau, il défend des mesures qui sont très proches, voire totalement identique pour certaines à celle de l'extrême droite. Donc on pourrait imaginer que le Rassemblement national représente un allié à l'Assemblée nationale. Et pourtant, le ministre s'est dit déterminé à utiliser le pouvoir réglementaire. Qu'est-ce qu'il peut faire par cette voie réglementaire ?
Alors, en fait, l'immigration, c'est un sujet très très large. Donc, il y a des choses qu'on peut faire de manière réglementaire sur les questions de niveau de titre de séjour, sur des directives qui peuvent être aussi données aux préfets qui ont le pouvoir de régulariser. Donc, il y a un certain nombre de choses qui, effectivement, peuvent être faites au niveau réglementaire sans passer par le politique, mais qui devront, à ce moment-là, être vraiment très concrètes et très pragmatiques. Et là-dessus, pourquoi pourquoi pas, mais ce serait important qu'ils réfléchissent avec les personnes qui, comme nous, associations, sociétés civiles, mais aussi les préfets qui sont en première ligne, qui sont confrontés au quotidien aux vraies questions et aux vrais enjeux, pour qu'on réponde aux questions. Par exemple, il dit il faut que les gens parlent le français. Je pense que tout le monde est d'accord de dire c'est mieux de parler français quand on habite en France, mais suffit pas de dire il faut parler français pour pouvoir rester en France, il faut aussi donner les moyens aux gens d'apprendre le français. Enfin, si vous avez déjà essayé d'apprendre une langue tout seul, c'est quand même très compliqué. Pouvoir aller à un cours de français, ce serait quand même plus pratique. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire et qui peuvent apporter des réponses et des solutions, mais il faut que ce soit pragmatique, que ce soit pas d'un point de vue purement politique ou partisan, et que ce soit fait de manière concertée pour que on n'ait pas les effets inverses de ce qui est recherché, et puis qu'on garantisse quand même des droits basiques et fondamentaux auxquels chaque personne a le droit, quelle que soit sa nationalité.
Alors, parmi ces droits, il y a l'aide médicale d'État. C'est une aide qui est réservée aux Français en situation irrégulière. La droite veut en limiter l'accès considérablement. D'ailleurs, une proposition de loi a été déposée en ce sens la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Quelles seraient les conséquences pour les personnes immigrées qui se trouvent en France et qui n'ont pas de papier?
En fait, ce débat, il a eu lieu au moment de la loi immigration. Finalement, avait été abandonné. Le ministre de la Santé de l'époque avait dit si c'est adopté, ne validez pas cette réforme-là. La conséquence, ça voudrait dire que vous avez, ça a été très important à une époque, vous avez le Covid, vous ne pourriez pas être traité par un médecin. Il faudrait attendre que votre cas soit urgent, que votre vie soit en danger, et donc d'être en réanimation pour pouvoir bénéficier de soins. Donc ça veut dire ça, en fait. Et en fait, ça a été démontré que dans les pays où on est revenu sur une mesure pareille, au final, ça a coûté plus cher à l'hôpital parce que les gens ne sont pas traités au moment où ils ont une rhume ou une grippe, mais au moment où ils arrivent au stade de la pneumonie et qu'il faut les hospitaliser pendant une semaine. Ça veut dire qu'une personne n'est pas suivie pendant sa grossesse potentiellement, et donc arrive au moment où elle accouche avec des complications très graves qui n'ont pas été identifiées. Donc c'est à la fois un risque pour les personnes, mais aussi au final un complètement contre-productif pour nos finances publiques et pour la santé publique aussi.
La théorie qui sous-tend toutes ces mesures, et notamment la question qui entoure l'aide médicale d'État, c'est que des étrangers viendraient en France pour bénéficier des aides sociales. C'est une théorie qui est défendue par la droite et par l'extrême droite. C'est quelque chose que vous observez, vous, sur le terrain ?
Alors, c'est une théorie qui, et c'est pour ça qu'il faut vraiment dire que c'est une théorie qui a été démontée par des dizaines de recherches. Donc moi, j'invite encore une fois les hommes politiques et les femmes politiques à se pencher sur ces travaux-là, qui démontrent qu'il n'y a pas de question d'appel d'air, ni au niveau médical, ni sur d'autres sujets en France, qu'en général, les gens viennent dans un autre pays pour y trouver peut-être une vie meilleure, parce que souvent aussi, ils fuient des conditions terribles dans leur pays ou que leur vie est en danger. Et toujours réutiliser cette idée de l'appel d'air. Il y a peut-être une, deux, trois personnes qui seront venues parce qu'un traitement n'existe pas dans leur pays. Mais ce n'est pas la majorité des gens qui viennent en France, qui viennent pour rejoindre leur famille, qui viennent pour étudier, qui ils viennent pour y trouver un travail et contribuer aussi à la fois à notre économie et à leur développement personnel.
Donc loin donc, c'est de ces théories dont on parlait à l'instant. Merci Hélène Soupio-David, directrice du plaidoyer à l'association France Terre d'Asile.